franceinter.fr.
Bonjour, chers écouteurs.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Fernandel.
Cinéma, monsieur, mais c'est ma passion, c'est ma folie. Pour jouer même un petit rôle, je ferais n'importe quoi, je le jouerais même gratuitement. Le premier, bien entendu.
Avant le cinéma, il y eut la revue, le musical, l'opérette. On compte 150 films, mais les disques sont innombrables. Cet homme est bien plus que Fernand Joseph Désiré Contandin, né à Marseille en 1903. C'est Protée. Chanteur et acteur, mime, mais aussi bien diseur, à la diction incomparable. À la fin des années 1930, il connaît déjà la gloire absolue. Et pendant les années 50 et au-delà, le rebond, Don Camillo, accède à l'éternité. Il faisait figure d'idiot, il a rencontré un destin improbable. À la fin de sa vie, quand il roule dans une grosse voiture avec un chauffeur, il deviendrait presque beau. À tous les ratés que nous sommes, il offre un destin de prince. On devine que son succès n'est donc pas prêt de s'achever. André Huguetto, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez un livre chez Houellebecq consacré à Fernandel. On vous connaît par ailleurs comme professeur de classe préparatoire, je dis ça pour rassurer les membres de l'intelligentsia à notre écoute. On vous connaît aussi comme poète. Je vous avais rencontré il y a quelques années autour du nom de René Char. Je n'avais pas fait l'association spontanément. René Char, Fernandel.
Oui, il y a un certain écart entre eux. Mais enfin, lorsque je conduisis mes deux fils qui étaient très jeunes à ce moment-là, en 1976, vers la maison de René Char, où il m'attendait pour parler d'un spectacle que nous avions organisé, eh bien, mes deux enfants, courant vers lui, l'un avait 7 ans, l'autre 5, se sont exclamés tous les deux en le voyant « Oh, Fernandel !»
D'accord. On va parler de la famille, d'ailleurs. Chez les Contandin, je disais le nom de la famille, on est artiste, pas nécessairement à temps complet, mais passionnément. Le père de Fernandel a un surnom.
Son surnom, c'est Sinède.
Et oui, il se produit.
Il a inversé son prénom.
Il se produit sur les scènes de Marseille au début de ce siècle, évocation d'un grand moment fondateur par son fils.
C'est à Marseille que vous avez débuté ?
Et où voulez-vous que j'ai débuté ? Naturellement, j'ai débuté à Marseille comme prodige dans les comiques troupiers, dans le tour de chant. À cette époque, c'était très difficile parce qu'on faisait des tours de chant dans les quartiers à Marseille. Et puis, petit à petit, lorsque j'étais adolescent et puis lorsque je suis devenu jeune homme, je me suis formé à cette école d'amateurisme de Marseille, car il y avait une réputation qui courait sur les Marseillais, que le public marseillais était le plus difficile, mais le plus juste. C'est-à-dire qu'à Marseille, on aime le beau spectacle. Et alors, il n'y a pas deux poids et deux mesures. Ou à Marseille, vous faites un triomphe, ou on vous sort.
Lorsque mon père m'a mené au Palais de Cristal de Marseille, qui était un véritable music-hall de l'époque, j'étais tout gosse et j'ai vu un acteur qui m'a omnubilé. Il s'appelait Paulin. La finesse de cet acteur, je dirais même de ce diseur comique, avait dans ma cervelle de gosse pris une importance telle que lorsque je suis rentré chez moi, j'ai dit à mon père « Papa, un jour, je serai artiste. Je voudrais chanter le genre de Monsieur Paulin. » Et j'ai débuté quelque temps après, et j'ai chanté pour la première fois « Ah, Mademoiselle Rolls, j'ai un petit objet à vous offrir. »
À vous offrir, oui, c'est quelque chose qui vous fera bien plaisir.
Imaginez vos petits-enfants maintenant, je ne sais pas si vous avez des petits-enfants,
oui.
André Huguetto.
Oui.
Alors, vos enfants confondent René Char avec Fernandel. Vos petits-enfants, ils vont vous demander, mais qu'est-ce que c'est ?
Que Fernandel ?
Non, qu'un comique troupier.
Ah oui.
On n'a pas parlé du costume. Piou-piou, tourlourou, pour des petits-enfants qui ne vont pas faire leur service militaire.
C'est un vocabulaire ancien, pour désigner le soldat de première classe qui était habillé d'un pantalon garance et d'un dolman bleu, n'est-ce pas ? Surmonté tout cela d'un képi. Et c'est là-dessus que Paulin a fondé son succès, alors qu'il était par ailleurs un très bon comédien, paraît-il. Mais voilà, ça a été le modèle de Fernandel lorsqu'il est monté sur scène.
Il est monté sur scène à 7-8 ans.
À 5 ans, il était poussé sur la scène pour être un figurant dans une pièce dont j'ai oublié le titre. Mais à 8 ans, son père le poussait sur la scène pour qu'il chante pendant les entractes des cinémas.
Enfin, après le comique Tropier, il y a la vraie guerre. Oui. Alors le père, Sinéad, a été mobilisé. Après le conflit, il abandonne un peu la scène et il passe définitivement dans le commerce et la banque.
Oui.
Alors le fils Ferdinand, c'est un bon fils, il le suit un moment, mais ce n'est pas sa vocation. Il décide de sauter le pas et de devenir artiste avec son ami Jean Mans, dont il va épouser
la sœur
Henriette. Alors, vous pouvez nous évoquer, on est dans les années 20 là, la vie d'un artiste de second ou de troisième rang. Il se produit à Marseille, il se produit ailleurs.
Alors oui, il accepte tout. Les noces et banquets, toutes les fêtes auxquelles il peut être invité. Et il se fait une réputation. Il devient indispensable, effectivement, dans tous ces petits événements locaux ou familiaux. Et donc, peu à peu, sa réputation grandit. Et Jean Mans lui écrit une petite opérette qu'il joue avec un certain succès devant un public très familial. Et c'est à partir de ce succès qu'il est recruté par le circuit Paramount pour chanter au cours des entractes qui étaient ménagés entre les films muets à cette époque.
C'est un acteur et un chanteur d'attraction qui, à la fin des années 20, monte à Paris. Alors là, c'est changement de braquet, hein,
oui.
Parce qu'il va jouer dans des salles beaucoup plus importantes. On va l'entendre évoquer le concert Mayol, et il va être découvert par le cinéma. 1931, introduit par Marc Allégret, il tourne son premier film sous la direction de Sacha Guitry et avec Rému, ça s'intitule Le Blanc et le Noir.
Lorsque j'ai commencé avec Maurice Camage, ça date de 1931, à l'époque où j'étais au concert Mayol, mon premier film avec Rému, un grand ami à moi, Le Blanc et le Noir, où je faisais un chasseur vierge. Vierge. Mais je ne l'étais pas, hein. J'avais accepté de tourner Le Blanc et le Noir avec Rému, histoire de voir la gueule que j'avais à l'écran. Je me suis vu, j'ai été fixé. Le peu d'illusions que j'avais sont parties. Alors là, vous savez, quand on se voit marcher de trois quarts de face et de profil, on se dit, ça y est, j'ai compris alors la gueule chevaline.
Mais ce n'est pas seulement une gueule, c'est un corps. Et avant d'être une gueule, ce sont des dents. Alors, essayez de nous raconter, là, par strates, en montant le début du film, toute la palette corporelle
alors
de Fernandel.
Oui, Fernandel se découvre à l'écran, n'est-ce pas? Jusque-là, il se découvrait à travers les yeux des spectateurs qui l'applaudissaient, qui riaient de lui. Mais il ne se rendait pas compte que ce rire concernait son physique, véritablement. Or, il était assez maigre à ce moment-là et son physique était assez remarquable. Physique un peu ingrat, enfin une bouche un peu grande, n'est-ce pas, qu'il décrit lui-même. Lorsque je riais, dit-il, c'était comme un képi posé sur un râtelier. Enfin, vous voyez, mais ces paroles sont de lui-même dans les confidences qu'il a faites à un journaliste qui s'appelait Pierre Barlatier qui avait recueilli ses mémoires.
Mais le visage et le corps.
Le corps.
Je me vois marcher de profil et de trois quarts. Macha Makayev, qui a fait la préface de votre livre, la directrice de la Criée de Marseille, dit « c'est pas seulement un visage, c'est un bipède unique ».
Oui, c'est vrai. Alors là, je dois dire que cette expression de Macha Makayev me fait revoir les films de Fernandel avec une attention supplémentaire. Effectivement, c'est quelqu'un qui a une démarche caractéristique, qui a aussi une allure tout à fait remarquable d'homme méditerranéen.
C'est-à-dire ?
Eh bien, une certaine décontraction méditerranéenne. C'est un homme du Midi et il impose cette image-là. Il transporte avec lui son paysage, en quelque sorte. Je crois qu'on sent aussi quelque chose qui n'est pas tout à fait urbain, qui reste un peu paysan, dirais-je. Enfin, d'autant que Marcel Bagnol aura utilisé aussi cette veine-là.
Ne brûlez pas les étapes.
Oui.
On va parler de la rencontre avec Marcel Bagnol. Mais je vous propose qu'on écoute un moment de totalisation des 10 ou 15 premières années d'expérience de Fernandel. Ce n'est pas encore le cinéma, cette démarche de bipède unique il l'expérimente sur la scène. Vous parliez des opérettes du début. Voici l'opérette de la Consécration qui a été créée à Marseille, qui a été jouée ensuite à Paris, vous l'avez dit, à demi-mot. Ignace, qui ne deviendra que plus tard un film.
Oui, mon trésor, ma gueule en or, à toi j'ai donné mon corps. Car tes baisers ont su me griser, je te le dis sans me flatter. C'est pour toi, mon loup, mon petit chien fou, je veux toujours me vendre à ton cou.
Ta voix, le soir, espoir, nous voir.
À toi je m'abandonne. Oh, oh.
Redis-le-me, mignonne.
Oh, oh.
Redis-le-me si tu veux. Redis-le-me si tu veux.
L'œuvre est signée de l'indispensable Jean Mance que vous citiez, Roger Dumas, et il est ici avec Marie Bizet. Il peut avoir du succès avec les femmes, finalement.
Oui, oui, très certainement.
Mais quand même, il se présente le plus souvent comme quelqu'un qui est l'entremetteur, qui est le serviteur des amours
oui,
des autres.
Le serviteur des amours d'autrui, surtout dans ses premiers films. Mais peu à peu, il conquiert l'estime des femmes et bientôt leur amour. Jusqu'à tourner un Don Juan dans lequel Sganarelle, il joue Sganarelle bien sûr, revêtu du costume de Don Juan, les fait toutes tomber.
Oui, mais vous allez trop vite là, André Guetto. Vous nous avez cité le nom de Pagnol et on n'a pas dit suffisamment sur la collaboration de l'un et de l'autre.
Oui, cette collaboration commence en 1934 sur le tournage d'Angèle. Et dans Angèle, Fernandel joue le rôle du valet Saturnin qui vient rechercher Angèle dans le bordel où elle a été placée par Andrex, n'est-ce pas ? Et c'est un rôle dans lequel il excelle tellement que la production va empêcher Marcel Pagnol de couper dans le rôle joué par Fernandel parce qu'il était tenté de ramener son film à une durée, disons, plus normale que 2h45. Et de ce fait, il voulait couper une certaine scène qui est devenue une scène d'anthologie. C'est le moment où Fernandel entre justement dans cette chambre où Angèle attend le client et où il explique ce qu'il vient faire. C'est un très beau moment de cinéma.
La collaboration avec Pagnol ne se passe pas sur le mode ludique qu'il décrit à plaisir, c'est-à-dire apéro, repas, 15 heures la sieste, et ensuite travaille seulement à 16 heures. Non, c'est pas comme ça.
Oh, je pense qu'il y avait tout de même un air de vacances dans ces tournages qui avaient lieu dans le Midi, non loin d'Aubagne, dans ces collines que Marcel Pagnol avait achetées pour y construire ses fermes abandonnées, pour y construire la ferme de la Lidoire d'Angèle, et pour y construire aussi le village de Regain. Mais Marcel Pagnol était très soucieux du confort de ses acteurs et actrices, bien sûr.
Notre réalisateur Jacques Sigal a une dilection pour le schpounz. Oui. Schpounz, ça veut dire quoi ? Brave, naïf, idiot ?
L'idiot, plutôt, oui.
Et on arrive, quand on est idiot, à se faire une place, quand même, dans le milieu frelaté du cinéma ?
Eh bien, le schpounz en donne la démonstration.
Et c'est Orane de Mazis, excellente dans ce rôle,
très,
qu'on retrouvera
très
plus tard, aux côtés de Jouvet, qui lui explique que, évidemment, il ne tient pas le rôle qu'il imaginait, mais qu'il peut être excellent néanmoins.
Faire rire ceux qui rentrent des champs avec leurs mains si dures qu'ils ne peuvent pas les fermer. Ceux qui sortent du bureau avec leur petite poitrine étroite qui ne savent plus le goût de l'air. Ceux qui reviennent de l'usine, la tête basse, les ongles cassés, avec de l'huile noire dans les coupures de leurs doigts. Mais faire rire ceux qui mourront, ceux qui ont perdu la mer ou qui la perdront.
Et qui c'est cela ?
Tous. Ceux qui n'ont pas encore perdu la mer la perdront un jour. Celui qui leur fait oublier un instant les petites misères, la fatigue, l'inquiétude et la mort. Celui qui fait rire des êtres qui auraient tant de raisons de pleurer. Mais celui-là leur donne la force de vivre et on l'aime comme un bienfaiteur.
Même si pour faire rire, il s'habilite devant leurs yeux.
Mais s'il faut qu'il s'habilite et s'il y consent, le mérite est encore plus grand, puisqu'il sacrifie son orgueil pour alléger nos souffrances. Nous, on devrait dire Saint Molière. On pourrait dire Saint Charlot.
Avez-vous remarqué dans l'existence que les couples ne sont pas à sa sortie? Car bien souvent, si la dame est immense, en général, le monsieur est petit. La femme à barbe épouse l'homme à berbe. Le gros la maigre, la maigre le gras. Le doucereux adore la femme à serbe. Quoi qu'on en dise, moi je ne comprends pas ça. Car pour ces mets, c'est très curieux. Il n'y a pas de juste milieu. Je n'ai jamais compris l'amour. Il est souvent aveugle et sourd. Pas besoin de discours, on y revient toujours. Je n'ai jamais compris l'amour. Approuvez-vous tous ces chats de gouttière qui pour l'amour se courent après en miaulant? Si on faisait comme eux des heures entières, on trouverait que c'est trop fatigant. Et pour les chiens, croyez-vous que c'est bizarre, même dans la rue, sous le nez des passants. Pour le taureau, c'est encore plus barbare. C'est un peu vache, je vous le dis en passant. Taureau, la vache, le chat, le chien. Moi, je trouve que ce n'est pas bien. Je n'ai jamais compris l'amour. Il est souvent aveugle et sourd.
Pas besoin de discours, on y revient toujours. Je n'ai jamais compris l'amour.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec André Huguetto. André Huguetto publie chez Hoëbec, un livre consacré à Fernandel. On n'a pas parlé du théâtre, André Huguetto. Ça n'a pas marché au théâtre.
Pas trop. Ouais. Pourtant, il a eu un grand succès de comique dans « Tu m'as sauvé la vie » avec Sacha Guitry. Sacha Guitry, se souvenant qu'il avait tourné un film avec lui, lui a écrit un rôle. Et cette pièce est très marrante, enfin, puisque dans celle-ci, il sauve la vie d'un baron joué par Sacha Guitry. Le baron est un peu inconscient après l'accident de cheval. Enfin, un cheval l'a renversé. Et lorsqu'il s'éveille après son évanouissement et que Fernandel est penché sur lui, Sacha Guitry, enfin le personnage que joue Sacha Guitry, s'écrie « Ah oui !» Je pensais bien qu'il y avait deux chevaux.
Je n'ai pas trouvé cette information un peu inattendue dans votre livre. Il aurait failli devenir pensionnaire à la Comédie Française.
On m'a proposé la Comédie Française.
Oui.
J'ai refusé. Je vous en donne la raison. Parce que d'abord, j'ai eu des grands prédécesseurs qui ont joué Molière. Et je ne sens pas Molière, moi.
Ah bon ?
Or, ce que je ne sens pas, je ne le joue pas.
Oui, c'est ça.
Car ce qui a fait ma force, c'est l'instinct. N'est-ce pas ? C'est-à-dire que moi, je m'adapte immédiatement à un personnage. Au moment où je ne sens pas ce personnage, lorsque je lis un sujet me concernant, qu'on a écrit pour moi, je le lis attentivement et je le lis écran, c'est-à-dire lorsque je me vois dans le personnage.
Moi, les acteurs dans les films, je ne les vois plus. Je ne regarde que les accessoires. Si les accessoires sont bien choisis, s'ils cadrent avec le décor, le film est bon. On n'admire pas assez les accessoiristes. On ne se rend pas assez compte qu'une théière mal choisie peut foutre par terre une scène d'amour.
J'ai quand même une interprétation de sa non-candidature aux Français, c'est qu'il ne voulait pas être accessoiriste aux Français.
Probablement. Il ne voulait pas rééditer l'aventure du Spoons.
Dont on entendait encore un extrait. Oui. La gloire, faute de théâtre, est extraordinaire à la fin des les années 1930, il publie ses mémoires en feuilleton dans le quotidien communiste Ce Soir. Oui. On se l'arrache.
Oui, oui, oui.
Et la drôle de guerre, alors, on s'interroge toujours sur cette formule. Il y a vraiment eu une drôle de guerre ? Ben oui, autour de Fernandel en 1940, quand il est mobilisé.
Oui, il est mobilisé au Château des Fleurs, à Marseille. Le Château des Fleurs est devenu une caserne.
Et lui-même habitait la Villa des Mille Roses.
Alors, la Villa des Mille Roses n'est pas du tout au même endroit, n'est-ce
oui,
pas ?
Oui, je sais, c'est à l'aise de Marseille, il faut être précis.
C'est vrai, c'est exact. Mille Fleurs, Mille Roses, il y a bien une correspondance entre ces deux lieux, par le nom. Mais voilà, le capitaine lui ordonne de prendre la garde. Et lorsqu'il prend la garde, c'est à l'heure de la sortie des bureaux et tout le monde va s'arrêter devant lui. 500 personnes, bientôt 1000, bientôt 5000 vont bloquer toute la circulation à Marseille sur le Prado.
Alors le colonel dit, vous n'avez qu'à devenir mon chauffeur.
Oui, devenez mon chauffeur. Mais lorsque le colonel lui demande de le conduire, là aussi, il y a un groupe qui se forme autour de cette voiture et lorsque le capitaine ou le général, peut-être, s'efforce de retourner vers la voiture, il est obligé de traverser une foule épaisse dans laquelle il perd, je dirais, ses attributs.
Et ses galons. Il va à un enterrement.
Oui.
C'est pareil.
C'est pareil. Et c'est l'enterrement de Gabriel Signoret. Il avait été un grand acteur du muet. Et lorsqu'il meurt et que l'enterrement a lieu à Marseille, Pagnol et lui, c'était au temps du tournage de Regain, veulent assister à ses obsèques. Ils s'installent dans l'église, un peu avant tous les autres d'ailleurs, et plutôt vers le premier rang. Et lorsque la foule entre, petit à petit, on se rend compte que tout le monde rigole dans l'église.
Si vous permettez, André Guiteau, on va peut-être un peu secouer la gloire, parler d'un autre enterrement, celui de la France, après la défaite de 1940. Oui. Votre chapitre sur ce sujet, il n'y a pas vraiment de chapitre d'ailleurs. Vous êtes un peu court, si vous...
Oui, c'est exact. Pas beaucoup de renseignements d'ailleurs.
On dit généralement qu'il est resté dans la zone sud.
Oui.
Oui. On l'a vu quand même enregistrer des disques à Bruxelles, chanter en juin 1943 à Vichy, au Grand Casino, ce qui est un privilège que l'État français réservait à peu de chanteurs de variété.
Oui.
À Paris, il pouvait avoir affaire avec les dirigeants de la Société Continentale. Oui. Vous savez, c'était la société à capital allemand qui produisait des films en France.
Qui avait déjà produit des films de Fernandel, d'ailleurs. Auparavant.
Et qui avait d'excellents collaborateurs comme Clouseau et bien d'autres. Bertrand Tavernier, qui ne doit pas être un adorateur de Fernandel, dans son film sur la Continentale, Laissez passer, imagine ce dialogue entre des dirigeants de la société allemande.
Je veux faire beaucoup de bons films, mieux que les Américains. Et pour ça, il me faut beaucoup de bons scénarios, donc beaucoup de bons scénaristes.
Ah mais ici, la terrasse en est pleine.
Vous savez très bien que non. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de juifs. Ni en Allemagne, ni en France. Les meilleurs étaient juifs. Natanson, André Lang, Pierre Wolf, foutu le camp. Un seul film orange. Comique. Je vous donne Fernandel. Dans 3 mois, il est libre. Il réalise lui-même.
Puis alors Fernandel, Fernandel, c'est le roi du gag.
Toutes les vedettes prêteront leur concours à la nuit du cinéma organisée au profit du Secours National. N'oubliez pas, le vendredi 31 mars, au Gaumont Palace, la nuit du cinéma.
Note de la rédaction, le Secours National, c'était l'outil humanitaire, l'instrument de charité du maréchal Pétain. Un de ses amis, Casimir Oberfeld, un de ses compositeurs préférés, doit arrêter de travailler avec lui. Il se retrouve à Nice, sous la zone d'occupation italienne, et puis il est raflé quand les Allemands arrivent et il disparaît. Enfin, on n'est pas là pour... faire un travail de justicier, mais il ne faut pas être amnésique non plus.
Oui,
qu'est-ce qui s'est passé les années d'après-guerre ? Ce ne sont pas les années de gloire comme celles de la fin des années 30 ?
Sans doute. C'est-à-dire qu'il avait tourné quelques films pendant...
film pour la Continentale et puis un autre.
Il a tourné Adrien aussi, il y a deux films. Ensuite, il y a tout de même un film qui le relance un peu dans la faveur du public, c'est Naïs de Marcel Pagnol.
Ah oui. qui est Jacques Segal l'aime beaucoup aussi. Mais moi, je voudrais vous parler de L'Auberge Rouge.
Oui.
1951, c'est peut-être un des meilleurs films de Fernandel, même si ça n'a pas été un grand succès. Il est inspiré par la légende d'une auberge de l'Ardèche dont les tenanciers, dans les années 1820, auraient fait disparaître beaucoup de clients de passage.
Oui.
C'est un film de Claude Autant-Lara. Le tournage se passe assez mal. Autant Lara, il décide d'épuiser Fernandel en lui faisant répéter les plans pour qu'il soit moins plein de verve.
Dès les premières scènes où j'ai commencé à travailler, je lui ai expliqué, j'ai dit, Fernand, je voudrais quand même que tu nuances un petit peu, que tu sois un petit peu plus gentil. Alors là, il m'a dit, écoute mon petit, hein, voilà 40 ans que je l'ai fait rire mieux que toi. Hein. Bon, alors j'ai usé d'un truc, le truc que l'on fait, c'est ce qu'on appelle les plans de coupe. Hein.
Et il y a aussi eu des conflits sur le contenu du film. Fernandel était quelqu'un d'assez clérical, je crois très conservateur. Orange trouvait que c'était, c'était quelqu'un qui était très réactionnaire et qui était très peureux, notamment par rapport à toutes les questions de religion. Et là, le film était critique, subversif, moqueur de la religion. Et Fernandel l'a mal vécu.
Oh, mais c'est de l'or!
Mais bien sûr, c'est de l'or, des rubis, des opales, des émeraudes, quelques diamants. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance. À côté de l'humble petit ossement qui est là-dedans. Si on rassemblait tous les tibias de Saint-François-Régis qu'on vous montre dans les églises, ce ne serait plus un saint. Ce serait un mille pattes.
Oui, le moine qui est reçu par l'aubergiste Carette et qu'interprète Fernandel est un peu ridicule avec son reliquaire de Saint-Privat d'Ardèche. Il n'est pas à son avantage.
Surtout, le grand moment, je trouve, c'est le moment où il confesse Françoise Rosé avec un
aubergiste,
n'est-ce pas, faisant office de confessionnal.
Oui, mais alors Bertrand Tavernier, on l'a encore entendu une fois, décidément, dit Fernandel a détesté ça parce que ça le faisait passer dans la cote des films que l'Église recommandait à ses fidèles
D'éviter.
Vraiment, l'agence de notation, là, c'était très, très bas. Il préférait de loin Don Camillo, qui était beaucoup plus fédérateur.
Oui. Alors, Don Camillo est un...
C'est un
film de Duvivier, bien sûr, mais il avait déjà tourné avec Duvivier, Carnet de Bal. Et Don Camillo relance tout à fait sa carrière. Il ne voulait pas interpréter le rôle de Don Camillo, parce qu'il craignait d'être catalogué dans les rôles d'ecclésiastique à jamais. Dans
À l'inverse,
Et donc, lorsqu'il accepte, c'est après avoir exigé un cachet tel qu'il s'imaginait que les producteurs le refuseraient.
Ah, le cachet. Donc, 5 films et demi avec Gino Cervi. Il y a encore un musée à Brescello où le film a été souvent tourné en Italie. Reprenons quand même, continuons sur le registre polémique, l'argumentation de Tavernier. Bien pensant, conservateur,
certes.
Conformiste.
Oui.
Je vais vous demander de la polémique. Alors, je continue. C'est la sainte famille, Fernandel. C'est le bon père. Vous dites dix fois qu'il n'a eu qu'une seule femme. Du moins, c'est ce qu'on sait. Et puis ses enfants. Et puis, il fait des disques pour les enfants avec une superbe diction à la fin de sa vie. La sainte famille.
Oui. En fait, ce qui est étonnant, c'est de voir à quel point les scénarii utilisent chez lui une tendance à se montrer comme une sorte de benêt devant les femmes. N'est-ce pas ? C'est ainsi qu'il commence. Et peu à peu, il va abandonner cette caractéristique, mais toujours en revenant vers la Sainte Famille, comme vous dites. Puisque lorsque son couple se trouve menacé, dans les films de Jean Boyer notamment, le coiffeur pour dames, le couturier de ces dames, après avoir fait traverser à son couple de graves périls...
La vertu l'emporte.
La vertu l'emporte.
Il n'y a pas moyen de se brouiller avec vous. Pourtant, Fernandel, il savait se brouiller. Il s'est même brouillé avec Pagnol, il s'est brouillé avec Guitry, et avec Claude Autant-Lara.
Et avec Carlo Rim aussi.
La mort, c'est 1971, dans son immense appartement de l'avenue Foch. C'est l'incarnation de la réussite aussi, Fernandel.
Oui.
C'est pour ça aussi qu'il plaît. Il fascine à cause de l'écart qu'il y a entre son rôle de départ et puis celui du bourgeois installé de la fin.
Il a connu une grande promotion sociale.
C'est bien dit, André Huguetto, tout est dans l'art de l'euphémisation.
Tout
Ça ne l'aurait pas fait rire du tout. Il détestait parler de l'Auberge Rouge. Votre livre, c'est chez Houellebecq. Il est intitulé Fernandel.
Le rire aux larmes.
Merci à vous donc et merci à Jacques Sigal à la réalisation, à la technique Gilles Gaillard pour la préparation, Franck Olivard et Frédéric Martin.